détails aujourd'hui.
Attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza?
Mais toi, c'est ta tête, tu peux un voleur aussi!
Elle va porter plainte pendant qu'on y est.
Vous voulez porter plainte?
Je passe l'éponge.
Et après? Une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi?
Plan séquence.
Là, ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un cul qui va très bien. Va mieux que jamais, même.
Ça n'est jamais assez. On ne leur fait jamais gagner assez d'argent. Qu'est-ce qu'on devient dans cette histoire? Qu'est-ce que deviennent les salariés?
Sur Radio Campus Tour.
Je suis ton père.
T'es incapable de m'aimer! Incapable de m'aimer!
Petite saloperie de païen communiste, t'as vachement intérêt à me dire que t'aimes la Sainte Vierge. Ou je t'ai traité moi un coup de pompe, tu m'entends? Alors dis-le que tu l'aimes la Sainte Vierge. Dis-le, mon guignol! Chef négatif, chef!
Chut!
Il y a trois mots qui sont importants pour moi. Inspiration, création, partage.
Cinglé ! Ah, c'est ça ? Ah, tu me crois livré à mort !
Les choses entraînent les choses, le bidule crée le bidule, il n'y a pas de hasard.
Bonjour, c'est Léa Drucker, vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus.
Bonjour à tous et à toutes. Oui. Plus bonsoir, puisque nous sommes le samedi 31 août, il est midi. Nous ne sommes plus le jeudi soir, hein, on vous l'avait annoncé début août. Maintenant, nous serons présents et présentes tous les samedis midi et de midi à 13h pour vous parler cinéma. L'émission ne change pas de concept, hein. On parlera de films récents, on diffusera des interviews, on reviendra pourquoi pas sur des films de patrimoine. L'équipe aussi que je vais présenter dans quelques instants n'a pas changé. Après, si vous voulez nous rejoindre, c'est toujours évidemment possible. Je tiens juste à m'excuser pour peut-être si vous nous écoutez en FM, le son peut-être est un peu craquant, mais on est dessus pour réparer.
On dit lofi. C'est un son lofi.
C'est ça. Ouais. Mais sinon, bifurquer sur le web, on nous entend mieux. Et puis, et puis en podcast aussi, ça sera bon. Alors, vous avez pu entendre Géry. Bonsoir Géry. Bonjour. Ah, je vais pas m'y faire.
Alors, les auditeurs et auditrices peuvent terminer leur soirée. Hein.
C'est vrai. Ils peuvent nous écouter le soir.
Samedi,
c'est vrai.
C'est peut-être la fin de leur soirée.
Ouais, donc, c'est vrai. Bonjour, bonsoir.
Bonjour.
Ça va bien?
Bien.
T'as passé un bel été?
J'ai pas eu de vacances, mais oui, c'était bien.
Et tu vas nous parler d'Alien, c'est ça?
C'est ça, Alien Romulus, plus précisément.
Que Charles a vu aussi.
Tout à fait.
Et bonsoir Charles. Bonjour.
Bonjour. Bon,
ça va bien?
Ça va très bien, ouais.
Passé un bel été aussi?
Parfait, ouais.
Eh bien, nickel. Pierre peut-être nous rejoindra. Louise n'est pas là aujourd'hui, mais elle sera là cette saison. Et puis, Sarah aussi viendra nous faire quelques coucous de temps en temps. Alors, peut-être quelques news qu'on n'a pas été là du mois d'août. Et il y a eu deux disparitions, une actrice et un acteur. Et quel acteur? Alain Delon, qui est décédé le 18 août dernier. Il avait 88 ans. Alain Delon, grand acteur français, notamment. Il a été l'acteur un peu phare des années 60-70. Après, il a eu un peu moins de succès à partir des années 80-90, mais ça reste l'acteur de La Piscine, du Guépard, du Cercle Rouge. Enfin, il a tourné dans énormément de films avec des réalisateurs, des metteurs en scène phares de l'époque. Et c'est un comédien incontournable, après qu'on aime ou pas, mais il avait une gueule, ce qu'on appelle une gueule d'acteur. Il était beau.
Brad Pitt de l'époque. Hein.
Ouais, et puis il formait un couple avec Robbie Schneider, et puis après Mireille Darc, surtout, un peu phare de ces années-là. Et c'est en tout cas, si on aime le cinéma français, c'est un acteur incontournable de ces années-là. Quoi. Forcément, vous avez certainement déjà vu Plein Soleil ou Le Guépard, qui sont des films incontournables. Et puis Un Flic, il y a eu aussi Monsieur Klein. Enfin, c'est quand on voit sa filmographie. Après, il était pas comparé, mais dans ces années, il y avait aussi Jean-Paul Belmondo. C'était vraiment les deux acteurs phares de l'époque. Jean-Paul Belmondo, qui est décédé il y a quelques années maintenant. Moi, personnellement, je pense préférais quand même un peu plus Belmondo. Mais voilà, il y a des films phares d'Alain Delon. Moi, voilà, je vous conseille Monsieur Klein ou La Piscine. Enfin, si vous avez jamais vu La Piscine, par exemple, ça peut être une bonne porte d'entrée. Je sais que la semaine dernière, ils en ont rediffusé pas mal sur France Télévisions. Certains sont encore disponibles sur le replay de France Télévisions. Donc, n'hésitez pas à découvrir si vous ne connaissez pas la filmographie d'Alain Delon. Tout n'est pas forcément chef-d'œuvre, mais en tout cas, il avait une présence, une aura devant la caméra qu'on ne peut pas lui enlever, en tout cas.
Ah oui. Moi, je ne connais pas très bien, moi, sa filmo, en fait.
Moi, à part les films phares de ces années-là.
Ça fait vraiment longtemps. Puis, c'est un acteur aussi qui a stoppé sa carrière assez... Enfin, ça fait longtemps qu'il ne jouait plus dans des films.
Non, à partir des 80, déjà, ça commence. Et puis 90, 30 ans.
Belmondo continue à jouer un peu. Alors, plus au théâtre, peut-être, Belmondo. Mais voilà, il y a beaucoup d'acteurs qui continuent, qu'on voit jusqu'à la fin de leur vie, quoi. Et lui, c'est vrai qu'il avait complètement disparu. Je pense qu'il y a plein de jeunes aujourd'hui... après la fin des années 90, ils ne connaissent absolument pas, en fait.
Parce qu'en plus, contrairement à Belmondo, il y a beaucoup d'acteurs de la jeune génération qui se réclament un peu de Belmondo, qui ont grandi avec ces films-là, et c'est vraiment un modèle. Alain Delon, on ne le retrouve pas forcément dans les références des jeunes acteurs, contrairement à Belmondo. Donc c'est peut-être ça aussi, la transmission, elle ne se fait pas forcément. Encore une fois, surtout à la fin de sa vie, il a été plus connu pour des frasques familiales avec ses enfants que pour effectivement ses films. Ça tapote normalement le plafond devrait résister si vous vous demandez ce qui se passe.
Côté de chez nous, là, je sais pas ce qui se passe.
Normalement, c'est bon. Et puis l'autre actrice qui est décédée, c'était un petit peu avant, c'est Jenna Rollands. Elle avait 96 ans. C'était la muse, on va dire, de John Cassavetes, cinéaste américain. Elle avait même 94 ans, pardon. Elle n'avait pas encore 96 ans. Mais elle a tourné, je dis sa muse, parce qu'elle a tourné 7 fois avec son mari, John Cassavetes. Elle était née en 1930 aux États-Unis. Elle admirait beaucoup Bette Davis, qui était une grande aussi actrice américaine. Et elle a d'abord fait du théâtre, et puis ensuite... C'est quand elle a rencontré John Cassavetes qu'elle s'est mise au cinéma et qu'ils ont tourné ensemble. Donc elle a tourné notamment, et ce qui lui a tourné pas mal. Avec son décès, je vous conseille d'ailleurs de voir l'épisode de Blow Up qui avait été fait il y a quelques années sur elle. Ça m'a permis de voir un peu ce qu'elle avait fait avant de tourner avec John Cassavetes. Et elle a tourné dans pas mal de téléfilms américains, et notamment Columbo, qui lui a permis de rencontrer Peter Falk à l'époque. Peter Falk qui a tourné pas mal avec John Cassavetes.
Ah oui.
Et donc voilà, si vous ne connaissez pas Jenna Rollands, par exemple, je vous conseille de regarder Open at Night, Gloria, Love Stream, qui sont des films avec Jenna Rollands et mis en scène par John Cassavetes. Elle avait une chevelure blonde. Vraiment, son regard, ses gestes, elle décrit vraiment la femme américaine aussi de l'époque. Et elle est marquante. C'était une femme libre dans les films. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'elle a retenu pas mal dans les années 70. Elle a eu beaucoup d'impact. Elle a refusé aussi, j'ai lu les diktats d'Hollywood, elle a reçu un Oscar d'honneur, mais sinon elle n'a pas reçu d'autres Oscars dans sa carrière. Mais c'est bien pour ses nombreux rôles au cinéma qu'on retiendra le nom de Jenna Rollands. Donc idem, si vous ne la connaissez pas, et si vous aimez le cinéma des années 70, je vous encourage à regarder certains de ses films. Voilà pour les deux disparitions de cet été. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres. Enfin, en tout cas, c'était celle
peut-être,
que...
Peut-être.
Bah, sûrement qu'il y en a eu d'autres. Mais on va revenir à des informations plus locales. Jerry, tu voulais nous parler du CGR culte.
C'est ça, tout à fait. Les soirées CGR culte qui reprennent dès demain, ce dimanche 1er septembre, une diffusion de Pulp Fiction à 16h, il me semble. Ça sera suivi la semaine prochaine, enfin le samedi 7 septembre, un marathon Seigneur des Anneaux, donc accrochez-vous, parce que ça fait quasiment 9 heures de film, je crois que ça commence dès le matin. Le dimanche 15, on aura le droit à Terminator, premier du nom, avec le mythique Schwarzenegger. Dimanche 22, Gladiator, dont la suite est annoncée, mais elle a l'air vraiment mauvaise.
Ah ouais, c'est
le trailer
le gladiateur qui surmonte un
rhinocéros.
Un rhinocéros, ouais, debout. Voilà. Sans vouloir trop vous en dire. Et ensuite, le vendredi 27, ce sera la dernière de ce mois de septembre, ce sera une diffusion de Seven.
Ah, voilà. Pas mal.
Eh ben super.
Seven, je m'en souviens de l'avoir vu au cinéma à l'époque. C'était dans les années, je ne sais plus, 97, 98, ouais. 99, je sais, enfin bref.
Enfin, fin des années 90.
Ouais, ouais. Je me souviens, c'était l'époque où Brad Pitt, justement, notre Alain Delon américain... Il commençait à. Ouais, c'était une période où il y avait beaucoup de fans de Brad Pitt. Et il y a cette scène, au début, la première apparition de Brad Pitt dans Seven, il monte un escalier et il arrive en haut pour arriver sur une scène de crime. Les filles hurlaient dans la salle à cette scène, mais partout, j'étais allé le voir plusieurs fois. À chaque fois, toutes les filles hurlaient. Ah, Brad !
T'étais jaloux ?
Non, ça va, non, je ne faisais pas le poids. Donc, à un moment, voilà.
Et pour les autres aussi info au cinéma studio, c'est la rentrée aussi et ils font ce qu'on appelle le retour de Cannes 2024 en partenariat avec le GNCR. Le GNCR, c'est le groupe national des cinémas de recherche. Et du coup, dans ce cadre-là, ils vont diffuser 6 films qui ont pu être projetés à Cannes et qui ne sont pas encore sortis. C'est des avant-premières. Donc, vous voyez, je ne vais pas forcément vous dire la liste des films. On vous mettra le lien sur du site des studios sur le podcast. Mais il y a notamment le dernier film de Miguel Gomez, Grand Tour, qui sera projeté. Et puis, le nouveau film de Boris Lofkin, L'histoire de Souleymane, qui est un grand film français que j'ai eu la chance de voir sur l'itinéraire d'un sans-papier dans Paris qui essaye tant bien que mal de survivre dans cette jungle et qui se fait malheureusement exploiter aussi par des... Enfin, ça parle de la misère sociale et si vous aviez vu un film qui s'appelait À plein temps il y a 2 ans avec Laure Calamy, on est aussi un peu là-dedans où c'est des vies qui vont à 100 à l'heure et on prie pour qu'ils se fassent à la fois pas renverser par une voiture, qu'ils se fassent pas avoir par plus miséreux que lui ou des gens qui... voilà, la misère entraîne la misère malheureusement et voilà, ça sera l'histoire de Souleymane, je peux vous dire juste la date, je l'ai là, ce sera le vendredi 20 septembre à 18h45 et on vous mettra tout ça dans le podcast. Et puis ils vont repasser aussi la semaine, enfin du 11 au 24, il y a 3 films de Frédéric Wiseman aussi qui ressortent, enfin en tout cas qui sont ressortis cet été, qui vont passer au studio. Il y a La Loi et l'Ordre, Hospital et Juvenile Court. Voilà pour sa phase Il était une fois l'Amérique de Frédéric Wiseman, grand nom du cinéma documentaire américain.
C'est ce week-end, voilà. Napoléon.
Et Napoléon, c'est ce week-end, ça commence cet après-midi.
Ouais.
Alors ils nous ont peut-être entendus parce qu'ils ont rajouté des séances lundi et mardi, mais ça m'arrange pas du tout.
Donc si vous nous écoutez encore,
vous pouvez en rajouter.
Attends, j'ai pas mon planning sur moi.
Ou plus tard ou voilà quand voilà. C'est.
Pour rappel pour les gens, ça dure 7 heures.
Voilà, c'est ça.
Et c'est diffusé en deux fois, presque 8 heures, parce que c'est deux fois.
Ouais, 3 heures et demie.
3 heures et demie, 3h40 ouais. À peu près. Donc, ça dure presque 8 heures. C'est diffusé en deux fois, deux après-midi.
Donc, un petit conseil, moi j'aimerais bien juste sur une journée, au moins ça balise la journée avec un petit brunch entre les deux films. Ouais. Voilà, par exemple.
On ne bosse pas.
Voilà, un jour, contactez-nous. Voilà,
un lundi, c'est pas mal.
Un lundi,
journée.
Je peux poser éventuellement ma journée. Pas le premier lundi du mois, s'il vous plaît.
Voilà, ouais.
Mais sinon, ça peut être jouable. Mais oui, et normalement, il y a un souci technique, mais normalement, il doit être diffusé à la télévision aussi.
Ouais.
Mais là, il y a un souci de technique, je ne sais pas de quel ordre.
Ouais, effectivement, mais... ils ont repoussé la diffusion, mais on n'a pas la date encore. Ouais.
Qui devait être là le 8 ou 9 septembre, avec une possibilité de voir le film sur Internet gratuitement, via les sites de replay. Mais voilà, il va falloir attendre aussi par ce biais-là. Je vous propose qu'on s'écoute une musique avant d'enchaîner sur les films. Je vous propose qu'on s'écoute une chanson d'un film dans lequel jouait Gena Rowlands qui s'appelle Love Streams de John Cassavetes.
a house that I knew so well. Invitation, not that it sounds well. Invitation, and I didn't know what to do. Observation, when I held you in my arms, anticipation of indulging in your charm, the hesitation at the moment of breaking through. Just to be alone with you, a complication when emotion comes to view, an invitation, and I didn't know what to do.
Il vient des sur plan séquence le jeudi soir sur Radio Campus. Gustave et moi, on ne fait que des plans séquences quasiment. C'est la meilleure émission de cinéma qui puisse exister au monde.
De retour sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM. On est le samedi 31 août pour la reprise de plan séquence. Avant de parler d'Alien et de laisser la parole à Charles et Géry, je vais vous parler du roman de Jim. J'ai oublié malheureusement l'interview que j'avais faite de Karim Leclou au Cinéma Studio, mais on vous la mettra en podcast et on la diffusera la semaine prochaine. Mais je peux déjà vous en parler. C'est un film qui est sorti le 14 août dernier, un film d'Arnaud et Jean-Marie Larieux, qui est adapté du livre de Pierrick Bali, du coup le roman de Jim, hein, le roman éponyme. Et c'est un film émouvant, tendre, assez touchant. Donc Karim Leclou qui campe le personnage principal, Émeric, est un garçon assez gentil, à l'écoute, qui va faire face aux événements de façon assez... il est résilient face aux événements, vraiment. C'est un film, je trouve, qui tend à toucher l'universel, qui tend à dessiner aussi un destin français, celui d'un homme qui va être... père sans l'avoir demandé, parce que Émeric en fait il rencontre une femme au début du film qui est jouée par Laetitia Deutsch, qui est enceinte, qui est sur le point d'accoucher. Le père est parti et du coup il tombe amoureux et il va rester à la naissance de l'enfant et il va être père pas malgré lui, mais voilà, il va s'attacher à cet enfant, il va l'élever comme si c'était son propre enfant sans avoir les attributs du père légalement, mais il va l'aimer, il va l'éduquer, il va le voir grandir, évoluer dans le monde jusqu'au jour où le père de Jim refait surface. Qu'est-ce qui se passe quoi, quand le père refait surface et qu'il a peut-être envie de s'inscrire dans cette éducation, dans l'éducation de Jim, et que Émeric ne fasse pas plus partie de la vie du coup de cet enfant. Et quand ça se passe, Jim il a à peu près 8 ans, 8-9 ans. Hein, il n'est pas encore adolescent, il n'a pas encore une, on va dire, il va pas encore choisir forcément vers quel camp il subit un peu la situation. Donc le film aussi, ce que j'ai adoré, s'inscrit vraiment dans un décor précis, celui du Jura. C'est un, on voit les grands espaces, la campagne jurassienne. Le livre se passait déjà là-bas. On voit aussi la camaraderie et en même temps la solitude et le silence de ces espaces-là, parce que on est dans le milieu rural et même si on peut connaître tout le monde dans un petit bourg, il n'y a pas forcément on peut être assez vite réduit à la solitude si on n'a pas forcément de famille. Emery qui fait pas mal de petits boulots, il vit la particularité été d'Emeric, c'est qu'il vit sans se plaindre, en fait. Il accepte ces situations-là. Quand le père revient, il accepte ça. Et on va dire, c'est une fatalité pour lui. Il l'accepte. Même les galères du quotidien, même les épreuves difficiles qu'il va traverser, tout ça, il encaisse sans broncher, sans se plaindre, en fait. Et c'est pas forcément certains spectateurs pourraient dire bats-toi là, un peu révolte-toi, mais lui il accepte, il est vraiment résilient et c'est un personnage qui est pas naïf, non, mais qui dit c'est comme ça en fait, et puis j'avance, je fais face aux épreuves et j'avance. Donc j'ai bien aimé ça, et le film du coup je trouve est politique à plein d'égards, dans le sens que Karim Leclou qui fait le père de Jim, cette famille recomposée, c'est pas, on va dire, ça parle des familles recomposées, c'est possible que Karim Leclou soit le père le beau-père de Jim, ça parle des familles recomposées dans la société française, il y en a de plus en plus, ça en parle de façon, encore une fois c'est un état de fait, c'est comme ça, c'est pas le sujet du film mais ça en fait partie. Et ça parle aussi des corps aussi. C'est rare dans un film, surtout français, de voir le corps d'une femme enceinte, mais vraiment nue, et que ça soit bien filmé. Le corps de Karim Leclou, pareil, qui accepte qu'on le voit avec ses rondeurs, nues, faire l'amour tous les deux. Enfin, c'est pas forcément des situations, et que ça soit pas du voyeurisme non plus. Tiens, regardez, non, c'est fait avec beaucoup de pudeur. D'ailleurs, il le raconte dans cette interview qu'on vous passera la semaine prochaine, les frères Larieux ont vraiment accompagné ça. Enfin, ça n'a pas été forcément simple pour lui, qui est d'un tempérament assez pudique, de se laisser filmer tout nu. Donc, ils ont vraiment accompagné. Ça n'a pas été des gros bourrins à filmer ces scènes-là. Et je trouve qu'il y a beaucoup de sensibilité, en fait, à filmer ces corps-là. Et c'est des corps qui correspondent pas non plus à l'injonction permanente de la société. C'est pas des corps minces, musclés. Non, c'est des corps qu'on peut rencontrer partout, en fait. Et je trouve ça bien aussi dans le cinéma qu'on montre aussi ça, que ça soit pas des stéréotypes qu'on veut nous imposer en permanence dans les magazines, ou à la télévision, et que ça représente la société française au final. Donc ça, c'est, je trouve que le film en traite ça de façon très très bien, parce que les personnes, pareil, encore une fois, Karim Leclou est un peu en surpoids, mais c'est pas un handicap pour lui, et le film n'en fait pas un sujet, c'est comme ça en fait, mais ça dit quelque chose néanmoins du personnage et de la société. Encore une fois aussi, le film ne verse pas dans des larmes faciles. Ça pourrait être très très facile dans un film mélo d'y avoir recours, mais pas du tout. On n'est pas dans des révoltes, le film est fait de plein de nuances, de tendresse, d'innocence et de subtilité. Et vraiment, encore une fois, il fait face à l'adversité de façon très humble, et c'est assez beau à voir. Donc il y a Karim Leclou, mais il y a aussi Laetitia Dush, comme je l'ai dit, qui fait la mère de Jim. Il y a Sarah Giraudeau, qui fait une des compagnes de Karim Leclou, parce que le film, je ne l'ai pas dit, il est sur plusieurs décennies. Donc c'est ça aussi la prouesse de Karim Leclou, c'est qu'il a traversé les époques. Ça démarre dans les années 90. pour aller jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est plusieurs décennies. Donc ça aussi, ça a été pour lui, il le dit très bien par rapport au réalisateur. C'est une convention parce que forcément, il a une quarantaine d'années, Kerim Leclou à peu près. Forcément, il paraît pas 20 ans. Donc quand il fait ce personnage qui rencontre cette jeune fille, il doit avoir 20 ans à l'image, mais non, il va pas se grimer pour avoir 20 ans. Ils ont pas pris un acteur non plus qui va jouer Kerim Leclou jeune. Donc ce qu'ils ont fait comme convention, et ils ont mis une voix off en fait au début du film en disant oui, ça a dû se passer comme ça, voilà. Comme ça, voilà, ça fait une convention. Le spectateur sait que peut-être ça s'est passé comme ça, mais peut-être pas. Et ce personnage-là, peut-être qu'il était comme ça, mais peut-être pas. Donc, moi, ça m'a pas gêné du tout. Donc voilà, tout ça pour dire que je vous conseille d'aller voir ce très beau film, Le Roman de Jim, d'Arnaud et Jean-Marie Larieux. Il est au Cinéma Studio et puis dans pas mal de cinémas du département. Donc, vous avez l'occasion d'aller le voir assez facilement. Et c'est une musique qui est un petit peu dans le film, mais pas des masses, mais qui fait référence en tout cas à Jim. C'est la balade de Jim d'Alain Souchon, et je vous propose qu'on s'écoute cette chanson d'Alain Souchon sur Radio Campus Tour.
plan c'est quoi? Un plan séquence. Bah, c'est pas un jeu de mots extraordinaire, mais j'ai essayé de trouver un truc un peu drôle pour annoncer cette émission plan séquence qui émet à partir et pour Radio Campus Tour. Et vous êtes évidemment nombreux à écouter ce plan c'est quoi? Plan séquence. Voilà, c'était de l'humour de première main. Diffusé lui-même par Bruno Podalides. Voilà. Ce qui peut, hein, c'est pas non plus extraordinaire, mais il a tenté. Et c'est tout à fait louable d'essayer, d'expérimenter, de se confronter à la dureté du réel. Voilà, à bientôt.
De retour sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM pour plan séquence. Et tout de suite, je vous laisse la parole, les gars, pour vous parler d'Alien Romulus.
Je t'en prie, vas-y.
Alors, Alien Romulus, donc film qui est sorti très récemment, qui est un peu le pendant entre les deux premiers films de la série, donc Alien Alien, le huitième passager, et Aliens. Film qui était assez attendu, puisque c'est en fait le premier de la série depuis le rachat de la Fox par Disney. Et bien que ça soit pas un mauvais film, je trouve que ça se ressent pas mal. Il y a un côté très, voire trop fanservice, ce qui est à la fois le point fort et le point faible du film, donc c'est une fidélité par rapport à la saga, mais comme une impression un peu de déjà-vu. Je sais pas ce que tu as ressenti, Charles, par rapport à ça.
Effectivement, hein, on sent que... C'est un bon film. Moi, je me suis pas ennuyé à un moment. J'ai vraiment apprécié le film. Mais effectivement, voilà, on sent que ça pourrait aller plus loin, en fait.
Alors, on oscille entre la science-fiction et le teenage movie.
Ouais, et puis ça pourrait être plus un film d'horreur, en fait.
C'est ça. Pour resituer le contexte, donc c'est l'histoire d'une bande d'adolescents qui en fait décide de s'échapper de leur planète pour échapper à leurs conditions de mineurs. Donc là, il y a un côté vraiment sur l'exploitation de la compagnie, de l'exploitation des mineurs et des prolétaires en général. Et en fait, pour échapper à cette condition, il y a une bande de jeunes qui va vouloir accoster sur ce qui pense être un vaisseau et ce qui, au final, est plus une base spatiale qu'un vaisseau. Et là, comme vous pouvez le deviner, ils vont rencontrer une forme de vie
pas cool,
voilà, et dont un voire plusieurs xénomorphes. Donc le point de départ est vraiment là. L'action est menée en fait par un personnage féminin qui est, je trouve, un peu le pendant version adolescent de
Ripley.
C'est ça, exactement.
Ouais. Mais c'est ce que je me suis dit à la fin du film, c'est que le casting est très jeune. Et voilà, donc l'actrice Kelly Spaney, je ne sais pas trop comment on prononce son nom, voilà, ils jouent tous très bien, mais c'est vrai que voilà, elle a 25 ans, elle fait plus jeune même, je dirais. Et les autres acteurs, voilà, n'ont pas plus, quoi. Alors que dans les autres films Alien, entre autres le premier film Alien, c'est vrai qu'il y a un casting d'adultes. Sigourney Weaver à l'époque, elle avait 30 ans quand elle jouait dans le premier Alien, mais déjà elle avait aussi quand même un physique plus mature. Il y avait quelque chose qui était intéressant dans son personnage, ce petit côté un petit peu androgyne aussi. Et puis les autres acteurs, voilà, étaient des acteurs plus âgés. Et là, ça manque peut-être un peu de varié de...
Non, on est un peu dans les schémas caricaturaux, le jeune rebelle, donc celui qui n'aime absolument pas les androïdes.
Ouais.
On se demande des fois, limite, c'est pas un clin d'œil à Terminator. Il y a aussi un autre personnage qui est assez androgyne, j'ai oublié son nom, un personnage féminin qui a le crâne rasé.
Ouais, ouais.
Un autre personnage féminin, mais là, en plus, dans les stéréotypes du genre, et aussi un androïde qui, au final, je trouve le personnage le plus intéressant, parce qu'il efface la frontière justement entre les personnes, ce qu'on appelle synthétiques dans le film, et les êtres humains.
et notamment sur sa conscience et sur sa relation avec le personnage principal.
Ouais, il joue super bien d'ailleurs, hein, parce que il a deux phases d'Android, parce qu'à un moment sans spoiler, il a une petite mise à jour qui lui permet en fait d'être un peu plus intelligent qu'au début du film. Et donc là, il joue complètement différemment et c'est vraiment intéressant. Donc ouais, le personnage, et puis il a un regard aussi qui est assez particulier, qui rend pas mal. Et d'ailleurs, il y a une sorte de petit clin d'œil au premier film, hein, je ne sais pas si tu as remarqué, mais...
j'ai l'impression qu'il y a un peu que des clins d'œil.
Alors il n'y a que des clins d'œil, ouais. Ça c'est clair. Mais par exemple, il y a un deuxième droïde qu'on aperçoit dans le film. Qui est joué entre guillemets par Ian Holm, qui était le droïde dans le premier film.
Et oui, bien sûr.
Ian Holm, il est mort maintenant depuis 4 ans. Ils ont reproduit son faciès pour son visage et tout sur un android artificiel.
Alors ça c'était une idée intéressante, mais voilà, et comme on disait, ça c'est un des points de fan service, donc c'est-à-dire ramener le plus de clichés possible. Enfin, de clin d'œil possible de la saga. C'est peut-être un film qui manque un peu de personnalité. Après, c'est peut-être bien trouvé, entre guillemets, pour éviter certaines écueils de la saga, comme Prométhée et Covenant.
Ouais. En fait, c'est bien, je trouve, que Ridley Scott ne soit pas à la réalisation. Ridley Scott, il est toujours à la production. C'est lui, on sent qu'il a décidé de... Voilà, il a réalisé le premier film en 78. Après, le deuxième film Alien, c'était James Cameron. Le troisième, c'était David Fincher. À chaque fois, ça a été quand même des noms importants quand même dans le cinéma qui ont réalisé les films. Le quatrième, c'était Jean-Pierre Jeunet, avant qu'il réalise Amélie Poulain. On sent que quand Ridley Scott, qui est devenu un gros producteur aux États-Unis et qui garde ses licences, en fait, c'est les films qui l'ont rendu célèbre, comme Alien, Blade Runner, d'autres. Voilà, aujourd'hui, il y a d'autres gens qui ont travaillé sur ses licences. Enfin, il en a fait des licences un peu. Et quand Denis Villeneuve a réalisé le Blade Runner 2049, si je ne me trompe pas d'année, c'était quand même Ridley Scott qui était derrière à la production. Et on sent qu'il garde une mainmise et qu'il ne veut pas qu'on fasse n'importe quoi et on a un peu envie quand même qu'il dégage. C'est un peu mon ressenti parce que finalement, Prometheus, il ne l'avait pas appelé Alien. Tout le monde disait, ok, c'est un peu un alien sans être un alien, et c'était pas clair, et même lui, il était pas clair dans son discours, et même il regrette d'avoir fait le film parce qu'il le trouve pas bon du tout.
C'est loin d'être le seul, visiblement.
Ouais, et Alien Covenant, qui sert pas à grand chose en fait, qui était déjà plus un alien, quoi. Et il y avait, ça fait longtemps en fait qu'on attendait. Parce qu'on ne savait pas en fait si ces films-là c'était des spin-offs ou si c'était les suites d'Alien ou parce que voilà, on avait Alien 1, Alien 2, Alien 3, Alien 4. Et c'est quoi Alien 5 en fait? On ne savait pas. Ok, Prometheus à l'époque, tout le monde disait c'est Alien 5 ou c'est pas Alien 5? Ils disaient non, c'est pas un alien du tout. Ouais, enfin il y a le vaisseau quand même. Enfin ils arrivent sur une planète où il y a exactement le même vaisseau que dans Alien. Enfin tu te fous un peu de notre gueule, non? C'était pas clair. Et Covenant,
là, moi, c'est clair avec Romulus. Après, est-ce qu'il n'y aura pas, moi je le vois comme ça, hein, une suite, voire une sorte d'univers étendu un peu à la façon de Marvel. J'ai peur que ça devienne peut-être un peu trop entertainment.
Ouais, parce que autant le film reste assez violent quand même, il y a des passages assez effrayants, mais peut-être pas assez, parce qu'en plus, par exemple, là, le réalisateur qui s'appelle Fede Alvarez, c'est un réalisateur qui vient du Uruguay, pardon. Et voilà, il vient du film d'horreur. Il a réalisé le remake d'Evil Dead de Sam Raimi, donc en 2013, qui était ultra violent. Quand même, c'était vraiment un vrai film d'horreur. C'est celui qui est passé, je Ah non, c'est pas celui qui est passé à la nuit. Ouais, mais c'est la suite. Il avait fait le précédent film, La Nuit de l'Horreur, au studio. Donc il avait fait Evil Dead, qui était quand même assez effrayant. Il avait fait d'autres films d'horreur. Il avait fait aussi Millennium, Celui qui ne me tue pas. Il avait fait des films assez. Voilà.
Il était aussi à la production, pas la réalisation de Massacre à la tronçonneuse, ouais, en 2022.
Voilà, ouais. Donc il est dans le film d'horreur. Et. Et là, ce que j'ai bien aimé, effectivement, c'est qu'on se rapproche quand même de l'ambiance du premier film. Dans les décors et tout, c'est génial, c'est vraiment super beau. Il y a même un côté un peu de clin d'œil à Blade Runner, hein, même au début, quand on est sur la planète des mineurs. On voit que dans les décors, l'atmosphère, il y a quelque chose de Blade Runner. Et il le disait lui-même, le réalisateur, il fait « Moi, c'est les films qui m'ont inspiré. » Donc voilà, donc il y a fait référence, mais alors effectivement il y a un côté fan service, mais voilà, il y a des côtés fan service qui sont intéressants dans le film. Au niveau décor et ambiance, c'est super.
Et le problème, enfin, ce qui n'en est peut-être pas un pour tout le monde, c'est vraiment ce côté bande d'ados qu'on peut retrouver dans des séries comme par exemple Stranger Things,
ouais.
Ou comme dans les Goonies. C'est un schéma assez classique utilisé. Bah, notamment par Disney. Et puis un côté vraiment fait pour les jeunes, mais avec des côtés, avec un côté années 80.
Ouais.
Bah, ce qui est la source de succès de certaines productions, bah, comme par exemple Stranger Things.
Ouais, c'est la mode en fait, hein, en voilà. Ce moment, côté années 80, tout ça.
Mais 80 à destination d'un public qui les a pas connus finalement.
Ouais, c'est ça, c'est vrai. Mais non, après voilà, ça reste un bon film que je recommande. Hein. On s'ennuie pas. Moi, je me suis vraiment. Je le reverrai facilement avec plaisir, tu vois.
Alors,
avec cette petite frustration en me disant, oh, j'aurais aimé que ce soit un vrai film d'horreur de science-fiction. Mmh. Un peu, tu vois, comme Event Horizon.
Mmh.
Tu vois, comment c'est le réalisateur Paul Anderson.
Paul W. Anderson,
pas Wes ni Paul T. Qui a fait plein de films très très nuls. Voilà, c'est lui qui a réalisé toute la saga de films Resident Evil qui sont vraiment pas terribles avec Mila Jovovich, etc. Mais il a fait dans sa carrière ce film qui s'appelle Event Horizon avec Sam Neill et l'acteur qui joue dans Matrix, l'acteur noir, j'ai oublié son nom, enfin bref, et qui est un film d'horreur de science-fiction, waouh, qui est plutôt vraiment pas mal, et qui est violent et qui est bien dégueu. Et j'aurais voulu voir ça dans Alien, quoi, parce que Alien, il y a de quoi faire du dégueu aussi, quand même.
Là, il est interdit au moins de 12 ou...
Ouais, je pense qu'il est interdit au moins de 12, ouais.
Et petite question.
Ouais.
Parce que pour nos auditeurs et auditrices, nous n'avons pas vu ce film dans les mêmes conditions ni sur le même écran.
Ah ouais.
Moi, je l'ai vu dans une salle classique, tandis que tu l'as vu dans une salle IMAX. Est-ce que tu penses que c'est un film qui est adapté à ce type de projection ou est-ce que c'est purement accessoire ?
Ah non. La copie a été adaptée à l'IMAX et... Et donc, ça a quand même participé bien. Avec l'ambiance, il y a un travail de la lumière quand même dans le film. C'est à la fois sombre et il y a plein de petites lumières. Voilà,
c'est en 3D également ?
Hein ?
En 3D ?
Ah non, il n'était pas en 3D, non. Et pour l'atmosphère du film, l'IMAX, je trouvais que c'était assez incroyable quand même. Même au niveau de l'ambiance sonore, parce qu'il y a une qualité de son dans cette salle qui est plutôt quand même pas mal. Et là, au niveau de l'image, c'était beau, quoi. Il y a vraiment des beaux contrastes. En plus, le film est à la fois sombre, mais avec parfois des lumières assez... il y a des passages avec beaucoup de lumières rouges, etc. Enfin, voilà, on est dans un vaisseau où, clairement, l'éclairage n'a pas été super bien pensé. Hein. C'est beau dans un film, mais dans la réalité, tu plaindrais, en fait, de bosser dans ce vaisseau. Mais putain, pourquoi vous n'avez pas mis plus de lumière ? On ne voit rien dans vos couloirs. On se plaindrait tout le temps. Leurs vaisseaux, ils sont nuls. Ils sont bien pour des films d'horreur. C'est clairement un vaisseau de films d'horreur.
Bah, c'est un peu ce qui a marqué en fait Alien par rapport à d'autres films de space opéra, type Star Wars. C'est qu'en fait, pour la première fois, on était dans un vaisseau dans lequel on n'avait pas envie d'être.
Ouais.
Alors que le Faucon Millenium, bah, tout le monde a envie d'aller.
Tout le monde a envie, enfin, ouais, moi j'ai envie d'aller au boulot en Faucon Millenium.
C'est ça, mais le Nostromo, ça donne pas envie. C'est, ah bah ouais, c'est, ouais, c'est moite, c'est chaud.
Et puis aussi, c'est des vaisseaux qui n'ont pas une forme de vaisseau comme on s'y attend. Enfin, dans, dans les Star Wars, etc., ils ont une forme de, à la fois de fusée. Il y a un aérodynamisme, en fait, dans la forme des vaisseaux. Et là, pas toujours, en fait. Par exemple, le Nostromo, ça, ça ressemble plus à un immeuble qui vole dans l'espace, quoi.
Et un immeuble
carré.
Un immeuble des années soviétiques, quoi.
Ouais, en plus, ouais, ouais, c'est vraiment du, comment on dit, du brut building, quoi. Et du coup, ça marche bien, effectivement, parce que c'est, ça rend le truc mais encore plus glauque. Donc ça, c'est génial, ça, ça marche super bien. Mais ouais, c'est dommage que le film soit pas un peu plus violent encore, quoi.
Plus violent, peut-être un peu plus subtil.
Ouais, ouais, aussi, ouais, ouais.
Parce que là, on voit clairement, les bestioles ne sont pas cachées ni suggérées comme dans le premier film.
Ouais, c'est vrai. Ça le fait un peu au début du film, puis petit à petit, bon, une fois, ok, vous savez qu'il y a les aliens, c'est bon, on vous en balance plein, quoi. Non. Effectivement, ouais, dans le premier, on ne sait jamais vraiment où il est. On ne le voit pas tant que ça, en fait, l'alien, dans le premier aussi. On a peur qu'il soit quelque part. Et puis, en plus, effectivement, comme ils se font facilement dans le décor de câbles qui dépassent de partout, etc. Parfois, dans le premier, je me souviens qu'il y a des scènes où l'alien était dans le champ, mais on ne le voyait pas. Et c'est juste parce que tout d'un coup, il bougeait la tête, que tu dis, oh, putain, mais en fait, depuis tout à l'heure, on le voit. Il est derrière le personnage, mais on n'y faisait pas attention, quoi. Et c'est, ça, c'est ce qui était assez brillant dans le premier, et qui est là un petit peu au début, mais voilà, pas jusqu'au bout, quoi.
En tout cas, si vous voulez vous faire un avis, c'est au CGR, ah, et ouais, au pâté, ouais, de Tours.
Ouais.
Et ben, on va terminer par le film de Jacques Audiard qui est sorti la semaine dernière. Mais avant, je vous passe la bande-annonce du nouveau film de Jacques Audiard qui s'appelle Emilia Pérez.
Signora.
Si.
¿Sabe usted quién soy, licenciada?
Vanitas del Monte, tenemos un cártel en el mercado de las nuevas drogas.
¿Y quién le puede ayudar, señor del Monte?
Quiero ser una mujer. Sé que tengo que dejar muchas cosas atrás. It's my only hope to live my own life.
Buenas noches. Nos conocemos.
Es abogada.
¿Pero esto? ¿Manitas?
Manitas se nos fue.
Yo soy Emilia Pérez.
Te necesito. Traiga a mis hijos de regreso conmigo a México. No puedo vivir sin ellos.
¿Y tú conoces a esa Emilia Pérez?
Eso sería muy peligroso para ti.
Me arrepiento de muchas cosas. Quiero hacer el bien. Misma.
No piensas de vez en cuando en todo lo que hizo Manitas.
Ya no sé quién es Manitas.
Es una condena.
No reconozco tu voz.
¿Son amigos?
De retour sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM. Vous avez pu entendre la bande-annonce du nouveau film de Jacques Audiard, Emilia Pérez, qui est un film musical. Hein, vous avez pu entendre un petit peu là dans cette bande-annonce. Donc, à la base, il voulait faire un opéra, Et de cet opéra, il va en faire un drame. Emilia Pérez, c'est déjà le 10e long métrage de Jacques Audiard, hein, qui avait commencé en 1994 avec Regarde les hommes tombés. Et puis son dernier film en date, c'est Les Olympiades. Et puis voilà, il a eu de nombreux succès. On pense à Un prophète, notamment, qui est pour moi l'un de ses plus grands films. Donc là, c'est un film en langue espagnole. Hein. C'est l'histoire d'un narcotrafiquant, Manitas, qui souhaite s'extraire de cette vie un peu de chef de cartel et devenir une femme. Donc le sujet est assez audacieux, voire visionnaire, même avant-gardiste. C'est un film de femmes, tout d'abord. Le film a d'ailleurs obtenu le prix d'interprétation féminine collectif à Cannes. Hein. Toutes les actrices du film ont reçu le prix. On retrouve Selena Gomez, qui est une chanteuse-actrice américaine. L'actrice va... Elle campe un des personnages du film qui est l'avocate d'Emilia, du coup la femme qui joue Emilia Pérez, et puis Kalia Sofia Garson, qui est une actrice qui a fait comme le personnage du film en fait un coming out trans. C'est à l'âge de 46 ans qu'elle a entamé sa transition et c'est voilà, le film aussi parle de ça. Donc pour les autres actrices, on a Zoé Zaldana, j'espère pas écorcher son nom, qui joue Rita. Donc c'est elle, l'avocate, pardon, qui va aider Maritas dans cette fuite en avant. Donc c'est un film qui embrase plusieurs genres, la comédie musicale, le drame, le film de gangster, la chronique familiale, la telenovela aussi, le film noir. On a des thématiques multiples comme la rédemption, l'acceptation de soi, puisque Maritas, du coup, elle ne peut plus s'accepter en tant à la fois que malfrat, mais en tant qu'homme. Donc voilà, il va devenir une femme et accepter, du coup, s'accepter en tant que femme et être aussi dans une résilience, parce qu'elle est obligée de tout quitter pour une nouvelle vie, parce qu'effectivement, il ne pourra plus être chef de cartel en étant une femme trans. Donc il va fuir, et c'est cette fuite en avant à laquelle on va assister. Et puis le film parle de, voilà, il y a plusieurs questions dans le film, c'est qui est-on, que transmet-on à ses enfants, pourquoi cette violence a jailli tout d'un coup, voilà, il est chef de cartel, donc il y a une violence qui est quand même assez forte dans le film. Le film a été tourné principalement en studio à Paris, mais on n'a pas du tout l'impression que c'est en studio, on a vraiment l'impression que ça se passe au Mexique. Les paysages, les lieux de tournage vraiment sont splendides. Il y a des belles couleurs, c'est assez crépusculaire par moment. Et c'est, donc le film, le scénario, donc écrit par Jacques Audiard et Thomas... j'ai oublié son nom, j'ai pas noté, du coup j'ai oublié, ça va me revenir, son scénariste habituel, ça va me revenir. Donc ils sont basés sur un roman qui s'appelle Écoute de Boris Ryan, et dans ce roman apparaissait ce personnage de trans qui désirait se faire opérer. Donc en ce qui concerne les musiques, parce que voilà, le film a beaucoup évidemment de musique et de chansons, trois noms importants pour le film, et j'ai retrouvé le nom du coup de ce scénariste qui a écrit en partie les musiques, c'est Thomas Bideguin, et ils sont fait aider par Clément Ducol et Camille, donc la chanteuse française, et Clément Ducol, c'est lui qui avait fait les musiques du dernier film de Léos Carax, Annette. Donc voilà, c'est pas des noms inconnus, et ils ont déjà un beau... une belle carrière à leur actif. Et au niveau du coup de la mise en scène, le chef opérateur du film, Paul Guillaume, a tout créé pour que le film puisse se tourner principalement en studio. Donc c'est assez bluffant, comme je l'ai dit tout à l'heure, créer de la vie. Enfin, chaque plan est assez, ouais, on pourrait faire un arrêt sur image sur chaque plan. Enfin, c'est assez bien construit, je trouve. En plus, c'est la première fois, voilà. Jacques Audiard qui tourne en langue espagnole, c'est la première fois qu'il utilise cette langue-là. Donc, dans Deep Pan, qui avait obtenu la Palme d'Or à l'époque, c'était pareil, la première fois qu'il utilisait la langue tamoule. Donc, et dans Les Frères Sisters, c'était l'anglais. Donc là, voilà, une nouvelle langue à son actif. Bref, pour terminer, je dirais que le film de Jacques Audiard, c'est un film de résilience sur l'identité, qu'embrase aussi bien le film musical que le film noir, dans des décors splendides et des chorégraphies entraînantes. assez sensationnel par moment. Je trouve que c'est assez brillant. Un casting en plus 5 étoiles. Voilà, si vous aimez les films musicaux, parce que si vous aimez pas, je pense que ouais, ça va vous allez assez vite vous ennuyer peut-être et trouver ça un peu kitsch. Mais si vous les aimez vraiment, le spectacle est assez grandiose. Il est 55, donc on peut redire le CGR culte au mois de septembre, puis on mettra tout ça demain
avec Pulp Fiction.
Si vous nous écoutez là aujourd'hui ou dans le podcast avant, en tout cas. Et puis Napoléon, dès cet après-midi, et peut-être plus tard si les studios nous écoutent. et puis voilà, on va se donner rendez-vous samedi prochain à midi pour parler évidemment cinéma sur Radio Campus Tour. Et puis tout de suite, je crois que c'est Jazz Story après nous. C'est plus Reggae Stories.
C'est pas les infos.
Non, c'est les infos. Jazz Story, c'est après. Après. Ouais. Là, et puis après, il n'y aura plus de rediffusion. Le temps. En tout cas, c'est les infos. Oui, t'as raison, Charles. C'est les infos. Et après, c'est Jazz Story. Allez, salut. Bon samedi à tous.